Mes chers auditeurs, bonjour. C'est grâce à Radio Cité, le poste de la jeunesse, le poste le plus aimé, que je vais présenter mes disques préférés.
Mais qu'il y ait nouvelle musique, dites aussi nouveaux réseaux, nouveaux circuits, nouveaux instruments. Sampleurs, séquenceurs, boîtes à rythme, c'est avec ces instruments que l'on compose de la musique aujourd'hui.
Radio Campus.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix
off. Et une polémique.
L'Europe, oui, c'est le oui ou le non.
Oui,
car... Mais on ne peut pas dire oui.
Non, surtout pas, il y a
oui. Non, non. Oui. Non.
Oui. Oui. Oui.
Non. Voilà.
Je veux dire, le monde est libéral.
Oui.
L'Europe est libérale.
Oui.
Il faut dire non à une constitution trop libérale.
Oui.
Nous avons dit non.
C'est non.
Non.
En France, le mot libéralisme était imprononçable. On en a inventé un autre, le mot Europe. Le discours des ministres aujourd'hui, c'est le discours de la fatalité et de la soumission. Ils veulent qu'on se soumette parce que d'abord ils sont du côté du manche, donc ils n'en ont rien à fiche, de toute façon ils vont s'en sortir. Donc ils nous tiennent un discours de soumission qui défend les intérêts des puissants et qui nous soumettent comme on était il y a 500 ou 600 ans. Ils veulent nous ramener avant les Lumières, ou justement jusqu'à la veille de la Révolution française où on nous disait on ne pourra jamais se passer de Louis XVI. On nous distillait ce discours fataliste et ce discours de soumission. J'ai la faiblesse de croire que c'est la période que nous vivons maintenant, c'est-à-dire on vit la fin du cycle de soumission. Et on sent poindre, de la part des citoyens, une volonté de reprendre possession de leur souveraineté et de réaffirmer ce qui est leur droit naturel et leurs droits fondamentaux, de maîtriser leur destin et d'être dans des logiques d'approfondissement des libertés et de progrès social et pas de destruction permanente de tout. On est dans une situation où c'est pas qu'il n'y a rien. Le système dans lequel on est ne permet pas à ce qui existe d'apparaître.
Salut tout le monde et bienvenue à vous pour cette émission en la compagnie d'Anne-Cécile Robert, docteur en droit européen, journaliste au Monde diplomatique, proche de l'Association pour une constituante, Association pour une nouvelle constitution, pour une nouvelle République française. Anne-Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Cette émission spéciale Europe pourrait avoir plusieurs titres. Pourquoi cette Europe ne fonctionne-t-elle pas? Ou plutôt, cette Europe ne fonctionne-t-elle que pour le grand capital allemand? Pourquoi cette Europe détruit-elle nos services publics? Cette Europe est-elle le cheval de Troie de l'ultra-capitalisme mondial? Pourquoi avons-nous abandonné nos souverainetés nationales et monétaires à des technocrates et des banquiers que nous n'avons jamais élus? Comment sortir de ce putsch européen? Putsch. Souvenez-vous, en mai 2005, au référendum européen, les Français ont dit non. Et pourtant, le texte est passé sous forme de traité de Lisbonne, malgré la volonté du peuple. On va causer pendant une heure de cette Europe du grand capital et des moyens d'en sortir et de faire autre chose.
440, oui. Voilà, je vous rappelle le CAC 4 à 4536, 86, 99 et 4531, 2002, 1,14 à 4479, 2,5, 94 à 65, CAC 4.
Ils ne font rien, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. Pas de nom et pas de photo. Leurs sociétés sont étrangères, plus compliquées est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau, il sentait bon son Lugano.
En ce qui concerne la mondialisation financière, il faut bien voir que tout ça s'est passé en fait en public avec des textes et des décisions prises. C'est-à-dire ce qu'on nous présente comme une fatalité, c'est en fait des États qui ont décidé de se déposséder eux-mêmes de leur pouvoir en signant des traités qui les ligotent et qui sont destinés à les empêcher de faire tout retour en arrière, c'est-à-dire à les empêcher un jour de se ressaisir de cette souveraineté perdue. Donc là, on est dans un choix politique qui a été fait par les élites et que les citoyens ont sans doute sous-estimé. D'abord parce qu'on nous a présenté les choses de manière extrêmement, bénigne, en nous disant par exemple on signe l'acte unique européen en 1986 parce qu'on va faire un grand marché. Bon, le citoyen, il se dit ben, pourquoi pas, après tout il y a la crise, faire un grand marché. Mais dans ce traité, il y avait toute une logique déjà qui dépossédait les pouvoirs publics, donc nous les citoyens, de leur pouvoir, et qui a abouti à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où finalement le pouvoir est transféré soit au marché, soit aux autorités non élues de Bruxelles. D'un côté, ça paraît monstrueux, mais de l'autre, c'est une situation encourageante, dans la mesure où si ça a été fait par des dirigeants, on peut très bien le défaire. Dire si ce sont des décisions et pas, je ne sais pas, une fatalité comme la foudre qui nous tombe dessus, ça veut dire que la volonté humaine a encore prise. Et c'est exactement le moment que nous vivons aujourd'hui. C'est le moment où ce cycle de dépossession des États commence à se gripper. Notamment en Europe, où on voit que l'euro vacille, il n'y a plus de croissance, le chômage monte. Donc cette stratégie qui consistait à dire, pour obtenir la croissance économique, il faut transférer le pouvoir au marché, qui savent se débrouiller, et aux technocrates qui savent prendre les bonnes décisions, cette stratégie est un échec total. Et en fait, aujourd'hui, les pays qui s'en sortent, ce sont les pays qui, au contraire, restaurent la puissance publique. Il y a le cas de l'Allemagne, où vous avez un pouvoir qui se reconstitue, dans le cadre d'une histoire un peu particulière, mais tous les pays émergents, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, sont des pays où il y a un pouvoir fort. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'économie soit non pas dirigée, encore que, ça se discute, mais qu'au moins elle soit orientée. Les marchés ne peuvent pas s'auto-réguler et les technocrates, par définition, ne voient que leur propre secteur de compétences. Ils n'ont aucune conscience de l'intérêt général. Ils ne sont pas là pour ça. Donc à un moment donné, il faut que la puissance publique reprenne la main. C'est exactement le moment que nous vivons aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut que les citoyens, au lieu de se désespérer, se réinvestissent dans le débat public. Soyons clairs, c'est un coup d'État qui s'est déroulé après le 29 mai 2005. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de coup d'État ? Parce que la volonté du souverain, c'est-à-dire le peuple, a été violée par ceux qui sont censés le représenter. C'est un coup d'État. Quand l'autorité légitime et légale voit sa volonté détournée, voire contredite, on est effectivement dans une logique de putsch. T'as eu raison d'employer...
Soft, new age.
Oui, c'est ça, dans les formes d'aujourd'hui. Parce que les responsables politiques nous disent « mais nous sommes élus, nous avons donc autorité pour prendre des décisions ». Certes, mais ils sont élus sur mandat du peuple. C'est-à-dire la hiérarchie, elle est très claire. C'est le peuple souverain. Et en deuxième position, il y a les élus, c'est-à-dire les députés, le président de la République, et après, éventuellement, les fonctionnaires. Mais donc, c'est toujours le peuple souverain qui est à la base de tout. Donc là, concrètement, en adoptant le traité de Lisbonne en 2008, qui était le traité jumeau du traité constitutionnel européen, les députés et les sénateurs ont commis un coup d'État, une forfaiture. Et malheureusement, les citoyens n'ont pas eu collectivement le réflexe de le percevoir comme ça et de s'y opposer en tant que tel. Mais il faut bien voir que dans cette situation, les représentants du camp du progrès ont contribué à ce coup d'État. Je veux dire par là qu'après le 29 mai 2005, il y a eu une élection présidentielle et on a eu des gens qui ont voulu, par exemple, incarner le nom de gauche et qui ont fait un score ridicule, si vous vous souvenez, je crois que c'était 2%. Et c'était là une erreur de trajectoire, puisque le nom, quelque part, il n'était ni de droite ni de gauche. C'était le nom du peuple français, c'était le nom du peuple souverain. Toute revendication catégorielle, que ce soit un nom de droite ou un nom de gauche, était automatiquement à côté de la plaque, puisque c'était une manifestation de souveraineté pure et simple, ce nom. Donc les seules revendications qui auraient dû avoir lieu, ça aurait dû être démission du président de la République, dissolution de l'Assemblée nationale, élection d'une assemblée constituante, mais pas du tout se présenter à une élection sur un clivage aussi partiel. Donc les citoyens ont été un peu tétanisés par les événements, mais la classe politique a contribué à enterrer cet événement exceptionnel qui était la victoire du non en 2005. On est toujours quand même dans la suite de ces événements parce que je crois que le 29 mai 2005 reste dans la tête des gens du fait qu'on leur a volé leur pouvoir en 2008 avec le traité de Lisbonne. Et en tant que citoyen, il me semble qu'on aurait intérêt, nous, à rappeler cette histoire-là et à inciter les citoyens à revendiquer à nouveau leur souveraineté sur des bases collectives et politiques.
Comment est-ce que les gens là, peuvent avoir prise sur l'Europe si ça ne passe pas par les urnes ?
On est dans une situation critique, mais vous savez, en 2007, donc élection présidentielle, les deux candidats des deux partis majoritaires étaient des partisans du oui. On n'aurait pas dû voter pour eux, on aurait dû... Ça, on pouvait le faire, on pouvait dire je mets un bulletin blanc. Il faut aussi que le citoyen récupère une certaine cohérence mentale. On ne peut pas à la fois voter non en 2005 et puis après voter pour des partisans du oui. Et ça, on ne peut pas nous le voler. Je veux dire, s'il y avait eu un taux de bulletin blanc élevé en 2007, notamment en deuxième tour, ça aurait eu sans doute un impact. Il faut qu'on arrive à faire sentir à la classe politique son illégitimité. On a des élections qui effectivement produisent des résultats qui sont après légaux. Les gens qui sont élus exercent le pouvoir. Mais il faut qu'on leur fasse sentir leur illégitimité. Et je suis assez sensible aux gens qui défendent le vote blanc. C'est à la fois une manifestation de protestation contre la classe politique, en termes de marché, on dirait l'offre politique, mais en même temps une manifestation d'attachement au suffrage universel. Les votes blancs montent régulièrement. Donc là, on évoque un petit peu dans les couloirs du Parlement l'idée de la reconnaissance du vote blanc, mais c'est très timide. À ma connaissance, il n'y aurait pas la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé. Il y aurait simplement l'idée qu'on va les distinguer des bulletins nuls. Mais c'est ça, faire sentir à la classe politique son illégitimité. Et en même temps, une revendication de représentation et de suffrage universel.
Attention, accrochez-vous, vous allez maintenant opérer une plongée au cœur de cette délirante machine européenne contrôlée par des gens que nous n'avons pas élus. Les explications d'une spécialiste, Anne-Cécile Robert, docteur en droit européen.
Le Parlement européen, c'est une instance où il y a effectivement des députés, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut observer dans les États nationaux. Même chez nous, il y aurait beaucoup à dire sur le pouvoir de l'Assemblée nationale, qui est quand même complètement dans la main du pouvoir exécutif. Mais au niveau européen, c'est encore pire, dans la mesure où le Parlement européen est, si vous voulez, pris en sandwich entre la Commission européenne qui a le monopole de l'édiction des textes, c'est-à-dire tous les textes qui sont votés au niveau européen le sont sur la base d'une proposition de la Commission européenne qui décide du contenu et du moment, ce qui est un pouvoir extraordinaire. Normalement, dans les démocraties, c'est un pouvoir qui appartient soit aux parlementaires, soit au gouvernement, donc à des instances qui, quelque part, procèdent du suffrage universel. Dans l'Union européenne, c'est une instance technocratique qui a le monopole du moment, de l'opportunité et du contenu des textes qui sont mis en discussion. Ensuite, le Parlement, il a la possibilité de faire des amendements, de faire des modifications, mais après, il doit les négocier avec le Conseil des ministres. C'est pour ça que je parle de sandwich. C'est-à-dire qu'il a d'un côté la Commission européenne qui fait les propositions et de l'autre, les ministres avec qui il doit négocier la version finale du texte. Et donc, il faut qu'ils soient en accord total, les ministres et les parlementaires, sinon le texte n'est pas adopté. Donc les parlementaires sont dans une situation de négocier toujours un pouvoir qu'on leur chipote en permanence et qui fait qu'ils sont dans l'impossibilité quelque part d'exprimer un intérêt général au nom des citoyens européens et au nom des peuples européens. Et en plus, ce pouvoir de négociation dont dispose le Parlement européen, il est totalement exclu de certains domaines clés comme la fiscalité, ou la politique étrangère, ou certains secteurs concernant la justice et les affaires intérieures, des limites qui sont posées au Parlement européen. Donc on est dans une situation où les gens pour lesquels on vote ne sont pas forcément ceux qui ont la main sur ce qui va se faire au niveau européen. Et la chose la plus contestable dans tout ça, c'est que nos ministres qui votent au sein du Conseil, ils sont collectivement irresponsables. C'est-à-dire que la Commission, au moins, peut être renversée par une motion de censure du Parlement européen, même si tout ça relève parfois du cirque médiatique. Mais le Conseil des ministres, il peut voter n'importe quoi. Il est complètement inattaquable. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une motion de censure, par exemple, ni par le Parlement européen, ni par les parlements nationaux. Et en plus, vous avez la mécanique des votes à la majorité, qui font que le ministre de votre État peut très bien avoir été mis en minorité, donc vous ne pouvez même pas l'engueuler. Et la décision va s'appliquer quand même. C'est pour ça qu'on évoque, c'est une expression assez laide, le déficit démocratique. C'est que le pouvoir du bulletin de vote sur les décisions européennes est extrêmement ténu. Il est extrêmement limité. Et au niveau européen, les choses se passent dans un cadre où finalement, on négocie entre des technocrates, des ministres, des députés, dans une ambiance qui est très éloignée du suffrage universel. Ben, c'est une ambiance un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite maison dans la prairie. Tout le monde est gentil, on se tape sur l'épaule, parce qu'en gros, on fait partie d'une grande famille, n'est-ce pas? Et on est un peu tous frères dans la grande aventure européenne. Et tout le monde est un peu dans cette mythologie-là, et on évite les mots qui fâchent.
À un moment ou un autre dans cette émission, il faut toujours qu'on dise « la guerre, grosse malheur ».
Grosse malheur la guerre, effectivement, et c'est l'un des fondements de la construction européenne, c'est-à-dire au nom de ce traumatisme qui a été la Deuxième Guerre mondiale, il faut en gros qu'on avale tout et n'importe quoi. On nous fait croire que s'il n'y a pas cette Europe-là, ben, en gros il n'y a rien et qu'on n'est pas loin soit d'Hitler, soit du goulag. Et du coup on a du mal à avoir des débats sérieux sur la construction européenne parce qu'on est coincé dans une alternative complètement fausse. En gros c'est ça, où c'est le chaos total entre les chambres à gaz et le goulag. Donc, il y a quand même une marge entre cette Europe-là, qui est une Europe ultra-libérale et antidémocratique, et d'autres versions possibles de l'Europe, parce qu'il n'y a pas que l'Europe fédérale, dans lesquelles on pourrait avancer. Et le Parlement européen, c'est une instance extrêmement dépolitisée. Tout est ramené à cette idée, t'es pour ou contre la construction européenne ? Le député, même s'il a envie, il ne peut pas dire « oui, mais je suis pour, mais pas forcément pour celle-là ». Ah oui, non, mais là, tu comprends, si tu votes pas ce texte, tout va sauter. Tu comprends, tu peux pas, ce serait irresponsable de ta part. C'est-à-dire, on a mis du temps à négocier ce machin, bon d'accord, ce texte est très mauvais, mais n'empêche que c'est bien qu'on l'ait quand même. Et si on n'a pas ce texte, bah, ce sera pire, et donc il faut que tu votes.
C'est de ça qu'on nous a menacés en 2005.
Exactement, donc on est toujours le couteau sous la gorge, pistolet sur la tempe, ce qui n'est pas très démocratique ça non plus, hein, je veux dire, dans une démocratie, non.
Certes.
Voilà, on a tant de... On peut réfléchir, on peut discuter, on peut poser des questions. Là, il y a une espèce d'ambiance où c'est... tout peut tout faire sauter d'un moment à l'autre si on ne se conforme pas à ce qui a été décidé, même si c'est mauvais. Et ce qui est paradoxal, c'est que parfois, les dirigeants reconnaissent que c'est mauvais. Ils disent, bon d'accord, ce texte est mauvais, mais il faut absolument l'adopter, parce que sinon, tout va sauter. Et puis de toute façon... Ça, c'est un argument qui est parfois un peu pervers, on nous dit, mais on a négocié pendant longtemps. Et ce texte, c'est le produit d'une négociation très longue, on ne peut pas faire mieux. C'est ça ou rien. Ça, c'est extrêmement pervers, parce que du coup, on nous met devant un fait accompli, parce qu'on ne sait pas comment les négociations se sont passées, d'une part. Parfois, les gens qui sont censés nous représenter, ils arrivent à la négociation, ils ont déjà tout cédé, ils ont déjà tout accepté. Donc on ne sait pas comment les choses ont été négociées. Et puis en plus, au-delà de ça, en tant que citoyenne, je commence à me dire, mais si le résultat de ces négociations, c'est forcément des trucs mauvais, il faut peut-être qu'on remette en cause la machine elle-même. Parce que si la logique, parce qu'on est 28 États, c'est d'arriver toujours à des compromis, chaque fois plus mauvais, parce que plus on est nombreux, plus le consensus est difficile à atteindre, bah faut peut-être arrêter. Ou faut peut-être repenser la manière dont on décide. Mais on ne peut pas être dans une logique où on accepte à chaque fois, au nom d'un impératif supérieur, dont on ne sait pas très bien d'où il sort, de remettre en cause constamment nos libertés et nos droits. Et dans le Parlement européen, dans les institutions européennes en général, il y a une logique comme ça, permanente, au nom d'un compromis dont on ne sait pas très bien qui l'a fait, ni comment, ni dans quelles conditions, on nous somme d'accepter des choses qui détruisent petit à petit nos libertés. C'est pour ça que j'ai déjà un peu tiqué quand tu parlais tout à l'heure de complot. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de complot pour arriver à ça. Ça peut être tout simplement des logiques, c'est-à-dire mécaniques, des engrenages avec des gens très bien, parfois très gentils, qui n'ont aucune intention de nuire, mais qui participent à un engrenage et à une logique qui font qu'au total, la conclusion est mauvaise. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Parce qu'à la limite, n'importe quel type, n'importe quelle femme honnête, on l'envoie dans cette mécanique, il va être pris dans le jeu. Il y avait eu, je crois que c'était un article de Pierre Bourdieu dans Le Monde Diplomatique il y a quelques années, qui racontait, à propos de l'Europe sociale, le parcours des syndicalistes. Le syndicaliste est de gauche dans son pays, on l'envoie représenter son syndicat à Bruxelles, en quelques mois il devient complètement de droite. Parce qu'il est embarqué dans une logique partenaire social, responsabilité, négociation, et au bout du compte, comme en plus les rapports de force sont extrêmement défavorables aux classes populaires, les rapports de force sont très favorables au marché, aux puissants en général, mais il se fait bouffer et au total il devient un agent de quelque chose qui détruit ce pourquoi il a été mandaté. Donc c'est de cette logique-là qu'il faut sortir, et qui est une logique, malheureusement, intrinsèque à la construction européenne. Il faut se rappeler que dans les années 50, le but principal des traités européens, c'était de faire un marché. Tous les traités européens sont basés là-dessus et ont pour but principal la construction d'un marché, c'est-à-dire la libre concurrence, le libre-échange. Et les préoccupations sociales n'existent pas dans les traités originels. Il n'y a aucun chapitre sur le droit social, puisque le but principal, c'est le marché commun. Du coup, encore aujourd'hui, tout le droit européen il repose sur ce socle qui fait que c'est le marché qui prime sur tout. Et on a essayé depuis une vingtaine d'années d'ajouter des dispositions sociales avec l'acte unique européen, avec Maastricht, mais à chaque fois, elles sont inférieures en termes hiérarchiques aux dispositions concernant le marché commun. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on perd. Quand il y a un conflit entre des droits sociaux et une disposition du marché commun, c'est les dispositions du marché commun qui l'emportent. Parce que le droit européen est depuis 60 ans basé là-dessus. On a beau ajouter des clauses sociales, de toute façon, elles sont hiérarchiquement inférieures. Et la question a été posée il y a 4 ans à la Commission européenne par des députés de gauche qui demandaient à la Commission européenne de rappeler que le droit social était aussi important que les dispositions du marché commun. Elle a dit, un, qu'elle n'en voyait pas l'utilité, ça c'est notre Commission européenne chérie ultralibérale, et puis deuxièmement, elle a rappelé que le consensus fondateur entre les États membres, c'était le marché commun, que le reste était sujet à débat. Et donc c'est ça l'engrenage, c'est cette hiérarchie politique et juridique qui instaure la primauté du libre-échange, de la libre concurrence sur toutes les dispositions sociales. Et tant qu'on n'aura pas réformé ça, on perdra. Donc les gens qui vont venir pendant les élections européennes vous dire qu'ils vont se battre pour qu'il y ait des directives sociales, ils sont peut-être sincères, pas tous, hein, mais il y en a qui sont peut-être sincères, mais en tout cas, ils sont perdants dans la mesure où de toute façon, le vrai problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la hiérarchie politique qui est à la base du marché commun. Les auteurs des traités européens étaient des ultralibéraux qui se sont servis de la construction européenne pour imposer aux États et aux peuples des normes libérales que les peuples ne voulaient pas. Il y a eu un détour par l'Europe pour imposer, parce que dans le cadre des États-nations, il y avait encore des syndicats, il y avait des mouvements sociaux très forts, il y avait l'État-providence, il y avait la sécurité sociale, les services publics. C'était inattaquable à l'intérieur des États. Et donc les libéraux ont fait le détour par l'Europe pour détruire de l'extérieur, technique du cheval de Troie, hein, tous les droits sociaux. Et c'est Alain Touraine, un sociologue, qui a dit « En France, le mot libéralisme était imprononçable ». On en a inventé un autre, le mot « Europe ». Aujourd'hui, on fait passer sous le vocabulaire de l'Europe, en fait, ce qui est le modèle libéral.
Cacarotte, cacarotte, oui, oui.
C'est évidemment une grande déception pour votre serviteur qui, en ses jeunes années, vota bêtement « oui » au traité de Maastricht, car une Europe avec moins de frontières, c'est une Europe qui ne se fait pas la guerre, l'Europe. Pour les peuples, la paix, la justice, la prospérité pour tous. En tout cas, c'est toujours ce qui est marqué dans les préambules des textes européens.
Les préambules hein, ont cette caractéristique qu'ils n'ont aucune force obligatoire, aucune force juridique. Ce sont des textes déclaratoires, mais c'est pareil pour les lois françaises. Hein. Les exposés des motifs, les préambules, c'est toujours bouleversant. Hein. Je veux dire, vous avez envie de pleurer. Vous lisez une loi, je sais pas moi, sur les droits des handicapés. Vous regardez le préambule, vous avez l'impression que ça y est, la France va se couvrir d'ascenseurs, de bateaux pour les fauteuils roulants. Donc c'est merveilleux. Mais quand vous regardez dans le corps même de la loi, là vous vous apercevez que les obligations imposées aux entreprises sont très faibles. Il y a des délais de genre 50 ans pour appliquer telle norme. Et pour le droit européen, c'est pareil. Les préambules sont toujours bouleversifs et tonifiants, comme disait l'autre, avec des références aux grandes valeurs. L'Europe est là pour faire un espace de justice et de liberté. Elle reconnaît les droits de l'homme. Encore que des fois, ils s'en mêlent les crayons parce qu'il y a un article, je ne sais plus si c'est le traité de Lisbonne ou la charte européenne des droits fondamentaux, mais il y a un passage à un moment donné que l'Europe reconnaît les animaux qui sont des petits êtres sensibles.
Donc, ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Mais enfin, bon, c'est un peu étonnant au détour d'un texte comme ça. Donc il y a les arbres, les fleurs et les animaux. Donc les préambules, faut les passer à toute vitesse parce que les choses sérieuses commencent après.
Ça commence là où on ne comprend plus. Quoi.
C'est mal écrit. Je confirme d'ailleurs que c'est mal écrit. D'ailleurs, moi-même qui suis juriste spécialiste du droit européen, ces textes sont difficiles à lire pour moi. C'est mal écrit parce que c'est souvent écrit après des heures de négociations. En plus, il y a des problèmes de traduction. parfois on passe souvent de l'anglais au français, ou maintenant de l'allemand au français. Donc des fois il y a même des contradictions entre les traductions, ce qui donne à la cour de Luxembourg de grands moments de joie à essayer de dire quelle est la bonne version. Encore un abus de pouvoir d'ailleurs, hein. C'est pas au juge de dire la loi, hein. Ils sont là pour l'appliquer. Et donc dans le corps des textes, c'est là que vous voyez les choses sérieuses. Et là, effectivement, après un préambule bouleversant où l'Europe est là pour, je sais pas moi, le progrès social, le plein emploi, etc., vous voyez que on est dans la compétitivité, dans ce qu'ils appellent l'employabilité. Il faut que les êtres humains s'adaptent au marché. C'est jamais la faute de l'économie, c'est jamais la faute des chefs d'entreprise, c'est jamais la faute des gouvernances, il y a du chômage. C'est parce que les salariés sont mal adaptés. C'est pour ça qu'on leur fait faire des stages, on leur fait faire même maintenant des relookings, parce que ça peut être aussi un problème de look. Certains, on les envoie chez le psy, d'autres, on leur apprend à se vendre, parce que le problème, c'est eux. Et quand l'Europe dit qu'elle fait des plans pour l'emploi, c'est en gros des plans pour réformer, adapter les salariés à un marché dont on considère que de toute façon, lui, il fonctionne bien et qu'on n'a rien à lui reprocher. Pour les services publics, c'est pareil, vous avez un article, alors on ne dit pas service public au niveau européen, on dit service européen d'intérêt général. Quand vous regardez, il y a marqué que la spécificité des services nationaux doit être préservée, mais en fait, deux lignes après, on vous explique qu'ils doivent être soumis au droit commun de la concurrence. Donc comment vous voulez à la fois préserver la spécificité des services publics et les soumettre à la concurrence ? De la même manière, on nous dit que le droit européen ne s'occupe pas de la nature de la propriété, c'est-à-dire les entreprises peuvent être publiques ou privées. Oui, peut-être, mais si elles sont dans tous les cas obligées de se soumettre au droit commun de la concurrence et au libre-échange, que la propriété soit publique ou privée, on s'en fout. Si c'est un capitalisme d'État ou un capitalisme privé, la conclusion pour le citoyen est la même. Donc il faut à la fois se méfier des grandes phrases et regarder concrètement quelles sont les obligations qui sont imposées. Et pour les services publics, c'est typique, ils doivent être soumis impérativement aux règles de la concurrence et ne pas, par exemple, procéder à la concurrence déloyale avec des entreprises. Il y a des débats, par exemple, au niveau de la Cour de Luxembourg sur les services de l'ANPE. Aujourd'hui, on dit Pôle emploi, je crois. L'Union européenne voudrait introduire des services de placement privé. Et donc, on accuse Pôle emploi de concurrence déloyale. Tout ça pour que, en fait, le placement, c'est un petit peu comme au XIXe siècle, des organismes bourgeois, où on va pouvoir placer des salariés privés de tout droit d'une maison à une autre. On va peut-être retrouver les cheminots du XIXe siècle qui allaient d'un village à un autre pour trouver du boulot. Tout est soumis à cette logique de concurrence. Donc même quand on vous dit que tel article reconnaît, par exemple, la spécificité des services publics, c'est faux, dans la mesure où, concrètement, ces services publics sont obligés de respecter une logique qui leur est contraire.
Il y en a un qui sent-il le coup venir, hein, avec cette histoire de renard libre dans le poulailler libre, hein. Ça sent un petit peu ça quand même.
Mais on est effectivement dans une mythologie qui ignore les rapports de force. A priori, effectivement, du point de vue politique et juridique, un salarié c'est l'égal de son employeur. Chacun est contractant et chacun signe un contrat. Mais ça, c'est de la fiction, parce que concrètement, vous êtes face à deux personnes dont l'un a la capacité financière de donner du travail et l'autre qui est en général dans la merde et qui cherche un emploi. Donc le rapport de force, c'est pas le même. Théoriquement, ils sont à égalité, mais concrètement, ils sont dans une situation où il y en a un qui est complètement dans la main de l'autre et complètement soumis à l'autre. Et c'est cette fiction du XIXe siècle qui est réintroduite par le biais de l'Europe. Parce que depuis le socialisme, tout le XIXe siècle, jusqu'aux années 80, il avait combattu ça en disant justement il faut protéger les salariés, il faut qu'on rétablisse un équilibre entre les puissances financières et les populations. Et avec l'Europe, on a fait disparaître cette notion de rapport de force et on a rétabli la fiction que chacun est libre et qu'il suffit de savoir se vendre finalement. C'est extrêmement pervers parce que le citoyen, il se retrouve culpabilisé dans tout ça. Il a l'impression que c'est qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il a un mauvais entrepreneur ou qu'il ne sait pas se mettre en valeur.
On est vilain parce qu'on se plaint tout le temps, surtout nous les Français.
Voilà, on est un peu désassistés et qu'en fait on rêverait qu'on nous prenne la main et tout ça. Mais personne n'a envie de ça, à quelques exceptions près. Les gens, ils préfèrent vivre de manière autonome en gagnant bien leur vie que d'être complètement soumis dans une précarité à demander de l'aide toutes les 5 minutes. Mais on culpabilise les citoyens, on culpabilise les salariés pour justifier un rapport de force qui est outrageusement favorable à ceux qui ont déjà pratiquement tout.
Voilà. Voilà pour ce rapide tour d'horizon de la mystification européenne. Question annexe à Anne-Cécile Robert. L'Allemagne. L'Allemagne et son grand capital sont-ils les mauvais esprits européens ? L'Allemagne, dont nous avons payé la réunification avec nos impôts, la revanche de l'Allemagne, qui aujourd'hui concurrence de manière déloyale ses partenaires européens et qui les conquiert à l'Est, en y envoyant ses banquiers, après y avoir fait déferler ses Panzer-divisions quelques décennies plus tôt. L'Allemagne qui fait la leçon à tout le monde, mais qui n'a toujours pas payé ses dettes des deux guerres mondiales. L'Allemagne qui, par exemple, n'hésite pas à étrangler la Grèce, à qui elle doit tant, après lui avoir fait tant de mal sous l'occupation, toujours sans dédommagement. Cette Europe n'a-t-elle été conçue qu'au seul bénéfice de l'Allemagne ?
En termes strictement économiques, il est vrai que l'euro a été bâti sur les exigences allemandes. Et l'euro, c'est ce qui détermine toute notre situation.
Un euro, c'est pas tellement, en fait, 6 francs, 35, je sais plus quoi, je me souviens
55.
Plus. Oui, voilà. C'est surtout 3 marques, je crois, c'est ça.
Hein. Exactement. Le taux de l'euro correspond aux nécessités de l'économie allemande. La plupart des économistes estiment que pour la France, l'euro est surévalué de 20 à 25%. Ça tue la compétitivité de nos entreprises et confère un avantage qu'on pourrait qualifier, là, pour le coup, de déloyal à l'Allemagne. Donc c'est en ces termes-là qu'il faut poser le débat, pas tellement en termes de Panzer, mais en termes de rapport de force politique, c'est-à-dire que l'Allemagne était, dans les années 90, par une mauvaise analyse de la France à l'époque, dans la situation d'imposer ses exigences concernant l'euro. Je dis une mauvaise analyse de la France parce que François Mitterrand, pour des raisons sans doute, j'allais dire historiques, de son histoire lui-même, avait vraiment très peur que l'Allemagne réunifiée ne quitte le giron de l'Europe et se mette à adopter une politique complètement autonome, dégagée de tout lien avec les autres. Et avec cette préoccupation, il a tout cédé à l'Allemagne. Alors qu'il aurait pu, peut-être, hein, négocier en lui disant « Bon, vous avez aussi besoin de nous, il faut qu'on trouve un équilibre. » Entièrement pris par sa peur, il n'a pas du tout essayé de demander à l'Allemagne des concessions. Et donc, du coup, toute la zone euro, tout le mécanisme de l'euro, la Banque Centrale Européenne, a été bâti sur le modèle du Deutsche Mark et de la Banque Centrale Allemande, la Bundesbank, que dans l'intimité on surnomme la Bouba, ça fait tout de suite moins peur. Et du coup, l'Allemagne s'en sort bien parce que tout correspond, la valeur de la monnaie, la structure des échanges, tout correspond à ses exigences. Tant qu'on n'aura pas le courage politique, on n'est pas les seuls, nous, les Français, à souffrir de ça. Il y a au moins toute l'Europe du Sud, de dire à l'Allemagne, bon, bah, écoutez, faut quand même jouer collectif, ou alors il faut faire autre chose. On va rester dans cette situation. Et ce qui est curieux, c'est que les gouvernants français, ils sont dans un rapport de soumission politique à l'Allemagne. C'est-à-dire, ils cherchent une accommodation, mais ils ne cherchent pas à négocier. Alors que c'est tout à fait normal de négocier. Je veux dire, l'Allemagne, après tout, serait capable d'écouter. Et puis que s'ils n'étaient pas capables d'écouter, peut-être que de toute façon, nous, on pourrait lui imposer d'écouter. Mais nos gouvernants, ils cherchent toujours à accommoder l'Allemagne. Comme si se fâcher avec l'Allemagne, ou même poser une question à l'Allemagne, risquait de faire sauter je ne sais pas quoi. En tout cas, on est dans cette situation où on perpétue un rapport de force qui est défavorable à notre économie et à nos entreprises, et en particulier à nos PME. Les grandes entreprises, hein, celles du CAC 40, elles arrivent à s'en sortir parce qu'elles sont sur les marchés mondiaux. Encore que, hein, il y a des grosses entreprises qui se plaignent du fait que la surévaluation de l'euro les plombe. Mais c'est surtout les petites entreprises, hein, d'ailleurs c'est elles qui ferment en ce moment, qui sont surtaxées par ailleurs, qui souffrent énormément de ce déséquilibre parce qu'elles n'ont pas la compétitivité avec l'Allemagne. Mais là, on n'est pas du tout dans une fatalité, on est dans un rapport de force politique. Il suffirait que politiquement on pose la question à l'Allemagne et que dans le cadre d'une négociation européenne où l'Allemagne a des intérêts aussi à défendre, pour qu'on puisse renégocier des choses. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que la question n'est même pas posée. Donc là, on est dans une psychologie politique qui fait que notre classe dirigeante n'ose pas poser la question. Mais elle pourrait au moins poser la question. Et après, construire le rapport de force qui va avec.
Anne-Cécile Robert, on nous dit que l'Europe c'est inéluctable, on est pieds et poings liés dedans, etc. Or,
Tu as rappelé un fait historique, c'est qu'un jour De Gaulle s'est mis en colère.
C'était en 1966, la Commission européenne voulait imposer une réforme de la politique agricole commune qui impliquait notamment un renforcement du pouvoir des institutions européennes et une réforme fiscale qui ne convenait pas au général De Gaulle. Et De Gaulle, ne parvenant pas à se faire entendre, a boycotté les institutions européennes, on appelle ça la politique de la chaise vide, qui avait été pratiqué quelques années auparavant par les Hollandais dans un autre contexte, comme quoi c'est pas forcément une politique française. En tout cas, c'était une façon pour le général de Gaulle de dire « là, non, ça va trop loin ». De Gaulle avait, après des réticences, accepté le marché commun, mais il disait « à condition quand même que la France s'y retrouve ». Là, sur la question agricole, c'était extrêmement sensible. Donc, voyant qu'il n'était pas écouté, et notamment de la Commission européenne, il a boycotté les institutions et il a pratiqué la politique de la chaise vide. Donc on peut toujours, y compris aujourd'hui en 2014, sans forcément aller jusqu'à la politique de la chaise vide, manifester un désaccord. C'est-à-dire on a l'impression que les États ne peuvent plus rien faire. Mais les États restent souverains dans la mesure où ce sont eux qui signent les traités européens. La France peut très bien refuser tout nouveau traité, refuser sa signature, et elle a même, j'allais dire, l'arme atomique, puisqu'elle peut se retirer éventuellement de certaines négociations, et même de l'Union européenne si elle le souhaitait. Politiquement et juridiquement, l'État français est toujours souverain et peut refuser de nouveaux accords européens. Il peut même renégocier des accords antérieurs. Alors après, il faut assumer politiquement. Si on a ce pouvoir juridique de souveraineté, il faut que derrière, politiquement, on assume de se fâcher avec nos partenaires. Ce qui ne gêne pas les Anglais. Par exemple, les Anglais, quand ils ne sont pas contents, ils assument totalement de se fâcher. Et puis au bout du compte, ils ne s'en sortent pas si mal. Madame Merkel, quand elle n'est pas contente elle-même, elle tape du poing sur la table. Il n'y a que les Français qui n'osent plus affirmer leur propre point de vue sous prétexte que les choses seraient fragiles, qu'on serait dans une maison en porcelaine et que si la France haussait le ton, tout sauterait. Mais à partir du moment où d'autres pays le font et à partir du moment où on aurait de bonnes raisons de hausser le ton, on aurait de bonnes raisons, par exemple au nom des salariés, au nom de la démocratie, au nom des droits sociaux, au nom des services publics, on aurait de bonnes raisons de hausser le ton. On doit le faire. Mais ça, c'est une question de courage politique pur et simple. Il n'y a aucune contrainte qui peut nous empêcher de le faire, là, pour le coup.
La voix off.
Et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
J'assume, mesdames et messieurs, je veux le dire aux Français. Angela Merkel a démoralisé les classes moyennes. Angela Merkel a trahi les consommateurs. Angela Merkel est la principale menace de tous les Français, dont la vie n'est déjà pas facile quand il n'y a pas la crise, mais dont la vie devient insupportable quand Angela Merkel peut partir avec un parachute doré.
Moi, président de la République, il y aura un président qui ne veut pas être président de la République. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de l'État.
J'entends parfois dire que François Hollande est une espèce d'ectoplasme, un homme qui n'a pas de conviction. C'est toute l'image qu'on ressort maintenant, du flamby, etc. Mais ça me paraît complètement faux. Je pense que cet homme a des convictions profondes, et qu'en tout cas il en a une, c'est la supériorité de la construction européenne sur toute autre considération. Je pense qu'il est profondément partisan de la construction européenne, et je ne suis pas certaine que dans cette vision-là, la France ait une importance réelle. En tout cas, elle est secondaire par rapport à l'impératif de construction européenne. Et il fera tout passer pour que l'intégration européenne progresse. Et donc c'est au contraire, François Hollande, quelqu'un qui a une conviction, au moins celle-là, et cette conviction a des conséquences sur nous. Parce que les choix qu'il fait, c'est déjà le maintien de la soumission de la France par rapport à l'Allemagne, et la poursuite d'une Europe libérale. Et son pacte de responsabilité, ce n'est jamais que l'aveu dans sa bouche de son choix fondamental, qui est un choix que, alors on peut discuter, est-ce que c'est social-démocrate, est-ce que c'est social-libéral. En tout cas, on sent bien que la hiérarchie qu'on a évoquée tout à l'heure est très présente, c'est-à-dire le marché doit obtenir tout ce dont il a besoin pour fonctionner, et ensuite on fera rentrer les autres exigences dans ce cadre. Mais la priorité est très claire, il faut que les entreprises puissent fonctionner, quelles que soient leurs exigences, et que le marché soit libre et que la concurrence soit libre et non faussée. Et après, on verra si on peut éventuellement accorder des droits aux salariés, maintenir certains droits qu'ils avaient, et puis mettre quelques pansements si jamais les exigences du marché étaient trop violentes, pour que ça ne tourne pas quand même à des scènes qui pourraient choquer les bonnes âmes, avec les misérables ou genre la porteuse de pain. Mais on est dans la compensation dont François Hollande et ses partisans estiment qu'elle est inévitable. Mais elle est inévitable uniquement dans leur tête. J'ai entendu que le gouvernement britannique décidait d'augmenter le SMIC dans des proportions importantes. Mais ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas dans l'euro, parce qu'ils n'ont pas Bruxelles sur le dos. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont encore en Angleterre une conscience de ce que c'est que la souveraineté du peuple, et qui n'est pas forcément quelque chose qui sent la naphtaline, c'est quelque chose qui est simplement l'expression de l'intérêt général pour lequel les Anglais ont élu leurs dirigeants. Donc en France, on a une situation qui est celle d'élites qui ont dans leur tête accepté l'idée que l'Europe était bonne par principe, quoi qu'elle fasse, même si c'est n'importe quoi, et que la France doit se plier à ça. Par ailleurs, pour eux, la France n'a aucune spécificité historique. Alors qu'il y avait le fameux modèle français, les services publics, ça n'existe plus dans leur tête, et même chez certains, on a l'impression qu'il y a une envie de détruire ce qui pourrait ressembler à cette spécificité, en particulier les services publics, l'école, la laïcité, sous prétexte que l'Angleterre c'est mieux, l'Allemagne c'est mieux.
L'Allemagne c'est toujours mieux.
Voilà, l'Allemagne c'est toujours mieux, d'ailleurs c'est bien pratique, parce que quoi qu'elle fasse, l'argument nous est imposé. Et c'est de cette logique-là qu'il faut sortir, parce qu'elle est, j'allais dire, psychologique. C'est nos élites qui ont décidé ça, une fois pour toutes, parce que ça correspond à leur priorité politique, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et en tout cas pour nous, citoyens, c'est une logique qui aboutit de manière négative en permanence. C'est-à-dire qu'on ne tire jamais aucun bénéfice de ce raisonnement. Tu faisais allusion tout à l'heure à Maastricht, mais on nous avait dit, bon, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais c'est une étape et l'Europe sociale viendra. C'est ce que nous expliquait François Mitterrand. Il disait, bon, là, c'est le socle économique, puis après, on va empiler les nouvelles étapes. Au bout du compte, on aura l'Europe sociale et puis on aura même l'Europe politique. Mais on n'a jamais vu ces autres étapes. Et on est dans la situation où on a tout abandonné au marché et aux chefs d'entreprise dans la première étape, et on n'a plus rien à négocier maintenant. On a déjà tout donné, on leur a tout cédé. Et aujourd'hui, on a beau dire qu'on va faire des pactes et des machins, mais qu'est-ce qu'ils en ont à fiche? Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, à peu de choses près. Ils ont juste à laisser filer les choses. On n'est plus du tout dans un rapport de force, mais par la faute de nos dirigeants, là, c'est pas du tout une fatalité, on n'est plus du tout dans un rapport de force qui nous permet d'imposer des choses. Je vais faire une allusion historique, j'aime beaucoup l'histoire de France, j'aime beaucoup l'histoire en général. Dans l'histoire de France, il y a eu cycliquement des phases où les élites françaises étaient complètement en dessous de leurs responsabilités, est complètement soumise et complètement défaitiste. C'est cyclique. Bon, tu vas rencontrer la Croix-Rise, où elle va te raconter comment il y a eu ce moment-là, en juin 40, où l'esprit d'abandon l'a emporté sur l'esprit de combat. C'est pour ça que De Gaulle n'avait que le choix de partir, parce qu'il était face à des gens qui avaient décidé de se soumettre, décidé de perdre, pour des raisons que la Croix-Rise expliquera. Et puis après, bon, bah, le cycle étant ce qu'il est, on a eu De Gaulle et on est reparti sur une phase de volontarisme. Là, on est à nouveau dans une phase de creux. On a eu ça aussi au début de la guerre de Cent Ans, 14e siècle, où les dirigeants se soumettent aux Anglais jusqu'au fameux traité de Troyes où la Isabeau de Bavière cède à Henri V Plantagenet la moitié du royaume de France, lui file sa fille en mariage, et les grands seigneurs qui par ailleurs sont divisés se soumettent à cette affaire. Alors qu'on avait les moyens de résister, on avait au moins tout le sud de la France et on aurait pu lancer une offensive. Mais nos dirigeants avaient décidé de se soumettre. Et c'est au moment où, autour de Charles VII, quelqu'un qui est trop peu connu, qui est une femme remarquable, qui est Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, que la résistance s'organise. D'ailleurs, on soupçonne Yolande d'Aragon d'avoir organisé l'opération Jeanne d'Arc pour essayer de doper Charles VII, qui était un petit jeune homme complexé. Et elle a organisé la résistance des seigneurs du Midi. Et elle a convaincu Charles VII de se battre et en a reconquis. Parce que la guerre de Cent Ans, on l'a gagnée, il faut quand même le rappeler. On a gagné la guerre de Cent Ans et on a reconquis tout le pays. Donc voilà, il y a des phases comme ça dans l'histoire de France. C'est ce que Sieyès appelait, sous la Révolution française, le fardeau de la liberté. À un moment donné, notre peuple, il doit fatiguer. Et sa classe dirigeante incarne peut-être plus cette fatigue que d'autres. Et elle est dans une logique de soumission. Donc moi, ça me rend plutôt optimiste. Je me dis, là, on est dans la phase de creux, mais il va y avoir une phase, comme d'habitude, où on va à nouveau se ressaisir. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est la période que nous vivons maintenant. C'est-à-dire on vit la fin du cycle de soumission et on sent poindre, de la part des citoyens, une volonté de reprendre possession de leur souveraineté et de réaffirmer ce qui est leur droit naturel et leurs droits fondamentaux, de maîtriser leur destin et d'être dans des logiques d'approfondissement des libertés et de progrès social et pas de destruction permanente de tout.
Et si pour reconquérir nos souverainetés, sortir du piège de cette Europe ultra-libérale, la solution était, comme le propose l'Association pour une constituante, la rédaction d'une nouvelle constitution pour une 6ème République?
Pourquoi pas passer directement à la 7ème, hein ? Je veux dire, ma préoccupation, moi, c'est pas tellement la 6ème ou la 7ème République, c'est le retour à la souveraineté des citoyens.
Alors comment on fait ?
Je ne crois pas qu'on puisse y arriver dans le cadre du système actuel. En fait, le raisonnement depuis le 29 mai 2005, auquel je suis parvenue avec beaucoup d'autres citoyens, c'est que dans le cadre du système actuel, on est forcément perdant. C'est la leçon du 29 mai 2005. On a voté, ensuite il y a eu des élections, et on s'est fait avoir parce que nos institutions fonctionnent de manière à ce que notre volonté soit annihilée et détruite. Et nos institutions, mais aussi le jeu des partis politiques, parce que ceux qui ont essayé de rénover le système de l'intérieur n'ont pas réussi parce que le système, il a ses logiques, les alliances électorales, le mode de scrutin, qui fait qu'au total, par des logiques de compromis, des logiques d'alliance, par les logiques du système, on arrive simplement à conforter d'une manière ou d'une autre le système, on n'arrive pas à rétablir la démocratie, parce que l'enjeu, il est là.
L'enjeu, c'est horrible, parce qu'à chaque fois que tu prononces le mot système, en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser aux polémiques actuelles, tu sais, de ces gens qui se revendiquent anti-système.
C'est très bien que tu soulèves ça, parce que c'est à la fois inquiétant et positif. C'est inquiétant parce qu'effectivement, la critique du système est reprise par des groupes d'extrême droite, il faut quand même le dire, souvent. Comme la critique du système s'étend, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qu'on est dans des logiques justement systémiques. Et que c'est donc la remise à plat de ce système qu'il faut faire et pas essayer de bricoler dans un coin. Et si on ne veut pas que cette remise en cause du système, entre guillemets, soit faite par l'extrême droite, parce que c'est vers ça qu'on va, il faut que les citoyens reconquièrent leur souveraineté. Et pour ça, il n'y a que l'élection au suffrage universel direct d'une assemblée constituante en France, qui aura les plus larges mandats pour non seulement redéfinir nos institutions, qui sont extrêmement autoritaires, mais également les règles du jeu politique, le mode de scrutin, enfin tout ce qui organise notre vie politique. Et dans la logique du 29 mai 2005, où on a vu quand même pendant des mois les citoyens se mobiliser, lire des textes qui étaient compliqués, on peut être raisonnablement optimiste sur la capacité des citoyens à s'emparer de ce débat. Parce que les opposants à la constituante disent « mais ça va être trop compliqué, les gens ne vont pas comprendre, etc. » D'abord, c'est extrêmement méprisant pour les gens. Et puis en plus, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on a vécu au moins en 2005, où on a vu au contraire les citoyens s'emparer courageusement de sujets difficiles et arriver à les comprendre justement par le biais du débat. La consultation, la discussion, la convocation de gens qui avaient peut-être une expertise, qu'elle soit citoyenne ou pas, comme on dit maintenant. On a en France une culture politique, une tradition politique, rappelée par le 29 mai 2005, qui nous incite à l'optimisme dans l'idée qu'une assemblée constituante aurait un effet extrêmement libérateur et extrêmement constructif par rapport à toutes les préoccupations qu'ont les citoyens. Parce que si on n'a pas l'élection d'une assemblée constituante, je crains qu'on entre dans des logiques de violence ou des logiques autoritaires, parce que de toute façon, la légitime exigence des citoyens de reconquérir leur souveraineté, elle va s'exprimer. De toute façon, elle va s'exprimer. Et là, le risque, c'est qu'elle soit usurpée par des forces réactionnaires et qui la canalisent vers des objectifs qui ne sont pas ceux du peuple français, le peuple français étant grosso modo attaché à sa liberté, attaché à sa souveraineté et attaché historiquement à des valeurs positives comme celles des droits de l'homme. Et j'ajouterai que l'élection d'une assemblée constituante présente cet avantage que le Front National n'a quasiment rien à dire sur les institutions. Et même s'il s'exprime sur les institutions, c'est en général pour confirmer ses penchants autoritaires. Hein, souvenez-vous, en 1986, Jean-Marie Le Pen avait été consulté par François Mitterrand au moment des attentats. La seule solution qu'il avait trouvée, c'était de suspendre les institutions de la République. Donc, je ne crois pas que le Front National ait des choses extrêmement positives et progressistes à dire aux citoyens en ce qui concerne les institutions.
Quelle vision de l'Europe défendez-vous?
Une Europe de la barbarie. Une Europe qui permette à chaque État-nation de prendre le pouvoir contre les peuples. Un super État totalitaire. Mais surtout, l'Union européenne a une vision, une idéologie qui consiste à supprimer des chômeurs immigrés de plus en plus sauvages. Voilà.
C'est un montage.
Faut pas laisser penser aux gens qu'on part de rien. Je veux dire, la France, contrairement à beaucoup d'autres pays, elle a plus de 200 ans de culture politique et de culture démocratique derrière elle. On a un peuple qui est quand même extrêmement sensible aux questions politiques, très cultivé, plein de gens extrêmement capables. Et le sentiment qu'on a qu'il n'y a rien et qu'on n'est pas organisé, c'est les apparences. On est dans une situation où c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que le système dans lequel on est ne permet pas à ce qui existe d'apparaître. Et c'est pour ça que je pense qu'une assemblée constituante serait très utile, parce que ça serait comme un ouvre-boîte. C'est que ça permettrait à la réalité de la société, c'est-à-dire tout le tissu associatif, toutes ces associations, tous ceux qui travaillent sur les monnaies alternatives, tous ceux qui travaillent sur les circuits courts en alimentation, tous ceux qui travaillent dans les syndicats, etc., puissent enfin avoir la place qu'ils méritent, et non pas être cachés, faire les choses quasiment clandestinement. Là, on est dans une situation où notre jeu politique, nos institutions empêchent la réalité de la société, qui est extrêmement vivante, d'émerger. Donc il faut absolument faire sauter ce couvercle. Et là, on verra que tous nos concitoyens et concitoyennes, puisque maintenant il faut féminiser, qui agissent depuis très longtemps concrètement dans leur usine, dans leur village, dans leur quartier, ils ont une expérience, ils ont des choses à dire, et ils ont sans doute déjà beaucoup de projets à mettre en œuvre. Donc on est simplement dans une apparence de vide. Je pense qu'au contraire, la réalité de la société française, c'est une réalité extrêmement imaginative et productive. Et il faut trouver le moyen de faire émerger cette réalité-là.
Leur pouvoir et notre résignation.
Oui, c'est exactement ça. On veut nous faire croire qu'il n'y a rien, mais c'est simplement que le système empêche la réalité de s'exprimer. Et donc, nous-mêmes, on s'auto-intoxique en disant « c'est vrai, il n'y a rien, d'ailleurs pour qui je vais aller voter ?» Mais c'est normal de ne pas savoir pour qui voter. De toute façon, le système rend complètement inintéressant l'offre politique, mais ça ne veut pas dire que si on avait un autre mode de scrutin, par exemple, ou un autre fonctionnement des partis politiques, il n'y aurait pas 50 000 nouveaux candidats beaucoup plus intéressants que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais le fonctionnement des partis fait qu'on va faire émerger que les plus conformes. Ceux qui vont se soumettre à la discipline du parti. Ceux qui ont des idées originales, ceux qui ont un peu de personnalité, ils ne résistent pas. Ils s'en vont au bout d'un moment. D'ailleurs, il faudrait regarder l'évolution des militants dans les partis politiques. Ceux qui restent sont en général des gens qui veulent être élus, qui veulent des places, ou ceux qui se sont suffisamment soumis à la discipline pour qu'on leur fasse une place dans le parti. Et ça, c'est un contresens, que les partis politiques, normalement, ils sont censés faire émerger les forces vives de la société. Ils sont censés contribuer, c'était le cas du Parti communiste dans le temps, où on voyait arriver à la télé des ouvriers qui choquaient beaucoup les bourgeois parce qu'ils s'exprimaient mal. Mais au moins, le Parti communiste, tout en étant un parti complètement délirant avec son attachement à l'URSS, il avait cette capacité à faire émerger les classes populaires dans le système politique. Mais aujourd'hui, les partis politiques fonctionnent à l'envers. Ils sont conservateurs. Ils sont dans des logiques de cooptation, de gens qui confortent le pouvoir, et non pas de gens qui sont capables de représenter les citoyens et de représenter la réalité de la société. C'est ça que le système est devenu complètement autobloquant. Et c'est pour ça que je ne vois pas d'autre solution que de changer radicalement, comme on l'a fait en 1789, comme on l'a fait en 1848, comme on l'a fait en 1946, c'est pas si vieux, et remettre à plat nos institutions, dans le cadre d'un grand débat démocratique, sous la bannière de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour que les choses soient claires, et repartir sur des bases beaucoup plus saines, où les citoyens seraient à nouveau là où ils doivent être, c'est-à-dire à la base de tout, le citoyen souverain. Sinon, c'est autre chose. Sinon, c'est la dictature, quelle qu'elle soit. Là, on est dans la période la plus difficile, c'est-à-dire dans la période où on sent l'oppression, où on sent que les choses bougent, mais où on n'arrive pas à se faire entendre. Rien ne va, et on a un sentiment profond d'impuissance. Mais la réalité, c'est que cette impuissance, elle est un sentiment. Concrètement, même si les choses sont difficiles dans la période que j'espère transitoire que nous vivons, le citoyen reste à la base de tout. Et quand on met un bulletin dans l'urne, quand on participe à une émission de radio comme celle-là, quand on va à une réunion de quartier, quand on participe à, je sais pas moi, un circuit court en agriculture, on est déjà dans la reconstruction de la société. Et comme disaient nos amis marxistes, il faut attiser les contradictions de la société pour que l'oppression saute. Un exemple, les monnaies alternatives. Ça a commencé comme une plaisanterie dans les campagnes, des gens qui disent on va faire une autre monnaie, une monnaie sociale qui rentrera pas dans les canons ni du franc ni de l'euro. Et puis maintenant, la Commission européenne a fait un rapport en disant mais il y en a beaucoup de ces monnaies alternatives, ça menace l'euro. Je m'imagine la première personne qui a dit on va faire une monnaie alternative, il se dit bon je le fais pour moi, pour mon quartier, pour mon village. Il a sans doute jamais pensé que 10 ans après la Commission européenne fera un rapport en disant oulala, l'euro est menacé. Donc c'est ce genre de choses qui au départ paraissent périphériques, qui en fait attisent les contradictions du système et puis placent les responsables devant leurs contradictions. Donc il faut que le citoyen il soit ferme. Ferme sur ses convictions, farouche quant au pouvoir qui veulent l'annihiler ou l'enfumer, et puis constructif, pas forcément rêver du grand soir, mais commencer autour de soi en ayant la perspective d'un changement global.
Peut-être aussi commencer par la perception qu'en tant qu'individu, en fait, on est important, on n'est pas rien.
Oui, mais si on accepte cette idée, bah, autant qu'on aille faire comme les Krishnas, hein, je mets en pyjama, puis on va annoncer la fin du monde dans les aéroports. Hein, je veux dire,
c'est bonne idée.
Mais, je veux dire, à entendre certains, ils disent, bon, bah, alors voilà, bah, on fait plus rien. Voilà. Donc soit on a conscience d'être un citoyen français, c'est-à-dire avec sa dignité, avec ses droits, soit on fait autre chose. Et si on a cette conscience-là, on a donc non seulement le droit, mais le devoir de se mêler des affaires publiques, et de manifester sa colère, même si au départ, ça n'a pas forcément de conséquences. De toute façon, cette colère, elle mérite d'être exprimée, elle mérite d'être revendiquée. Et puis, petit à petit, parce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire, finalement, les choses, à un moment donné, finissent par déboucher. Il y a des longues périodes qui sont difficiles, on est dans un entre-deux, où on est assommé de choses, comme sous une vague, et puis on a l'impression que ben, on ne pourra jamais remonter à la surface. Et puis, à un moment donné, les choses débouchent. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire, mais ça ne peut arriver que si les citoyens ne se démobilisent pas. C'est-à-dire s'ils continuent à écouter ton émission, à lire des livres, à aller aux réunions de quartier, à être dans leur syndicat, à manifester leur colère, même s'ils se prennent des coups dans la gueule, voilà, on les rendra les coups. De toute façon, on les rendra. C'est notre dignité. Si on laisse tomber, on est foutu. C'est ce qu'ils attendent en plus. Le discours des ministres aujourd'hui, c'est le discours de la fatalité et de la soumission. Et ils veulent qu'on se soumette. Ils veulent qu'on se soumette parce qu'eux, d'abord, ils sont du côté du manche, donc ils n'en ont rien à fiche. De toute façon, ils vont s'en sortir. Donc ils nous tiennent un discours de soumission qui défend les intérêts des puissants et qui nous soumettent comme on était il y a 500 ou 600 ans. Leur rêve, en gros, ils veulent nous ramener avant la Renaissance. Ils veulent nous ramener avant qu'il y ait eu, vous savez, les gars comme Descartes, qui disait cogito ergo sum, donc avec ma raison, je pense, je peux construire mon destin. Ils veulent nous ramener avant les Lumières, où justement, on nous tenait des discours fatalistes comme ça. Jusqu'à la veille de la Révolution française, on nous disait on ne pourra jamais se passer de Louis XVI. On nous disait mais c'est normal qu'il y ait les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Donc on nous distillait ce discours fataliste et ce discours de soumission. Et c'est le jour où les états généraux ont dit mais non. On n'est pas d'accord, que du coup tout a basculé. Il faudrait raconter ça aux citoyens. C'est la scène du 20 juin 1789. Les États généraux se sont proclamés Assemblée nationale et ils veulent donc maintenant statuer au nom du peuple et non plus au nom du roi. Le roi leur intime l'ordre de se disperser. Il envoie le marquis de Drebrézé dire dispersez-vous. C'est à ce moment-là que Mirabeau se lève en disant « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons qu'à la force des baïonnettes. » De Drebrézé est complètement tétanisé. Il dit « Mais vous avez entendu, c'est un ordre du roi. » À ce moment-là, il y a un petit bonhomme qui se lève et qui regarde Drebrézé et dit « Mon nom est Bailly, je suis astronome. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Et je crois, monsieur, que le peuple assemblé n'a d'ordre à recevoir de personne. » que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne, ben ce jour-là, par cette simple phrase, la souveraineté a changé de main. Elle est passée de Louis XVI à la nation. Et ça, c'était quelque chose qui travaillait depuis des années et des années, Descartes, les Lumières, etc., et qui à un moment donné s'est concrétisé, et un petit bonhomme qui se lève, il dit non. Et je pense qu'on n'est pas loin de ce moment-là. Mais il faudrait que ça soit sur les bases de Bailly de 1789, plutôt que sur des bases un peu moins marrantes. C'est ça l'enjeu, d'où la constituante.
Et voilà les amis, c'est sur ces mots que s'achève cette spéciale européenne. Merci à Anne-Cécile Robert que vous pourrez lire prochainement dans Le Monde Diplomatique. Allez jeter un œil sur le site pour une constituante et une oreille sur polemix-et-la-voix-off.com où vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres. On se retrouve très vite, même lieu, même heure. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.